Bienvenue à l'église au cœur de la ville. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l'écoute de ce message.
Nos slides sur le message de ce matin dans l'intimité de Dieu. On va terminer cette série. On en est à la cinquième rencontre sur cette thématique. J'ai voulu prendre un peu de temps avec vous dessus. Je pense que ça vaut la peine. L'intimité de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on peut traiter comme ça. C'est tellement vaste. On est sur un psaume, le psaume 139, dans la totalité du psaume. Je vais vous en faire la lecture ce matin, du verset 1er au verset 24. C'est un psaume de David. Je vous fais la lecture dans la traduction « Parole de vie ». Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. » Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche, que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi. Tu poses ta main sur moi, tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. Je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit autour de moi. Mais pour toi, même l'obscurité est lumière, et la nuit est claire comme le jour. Obscurité ou lumière, pour toi, c'est la même chose. C'est toi qui as créé ma conscience, c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que je fais est magnifique, je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, quand tu voyais tout, rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Et pourtant, aucun n'avait encore commencé. Ô Dieu, tes pensées sont vraiment difficiles, elles sont si nombreuses, comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Même si je les comptais toutes, je n'arriverais pas à te comprendre. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir les gens mauvais, si tu chassais loin de moi les assassins. Ils utilisent ton nom pour tromper les autres, ils s'en servent pour faire du mal. Seigneur, je déteste ceux qui te détestent, et ceux qui luttent contre toi me dégoûtent. Je les déteste totalement, ils sont devenus pour moi des ennemis. Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Amen. Ce psaume est formidable dans l'étendue de la révélation qu'il, nous permet d'avoir concernant Dieu, ce Dieu omniscient, qui sait tout, omniprésent, qui est partout, omnipotent, qui peut tout. Mais il n'est pas juste cela, Dieu. Il est bien plus que cela encore. Qui peut sonder qui est Dieu? L'Esprit de Dieu le sonde. Il en connaît toutes les profondeurs et cet Esprit, lorsqu'il est dans votre vie, vous permet de vous révéler qui est Dieu, certainement pas dans sa totalité et sa globalité, mais dans ce qui est utile pour votre foi, pour mener la vie de chrétien et de chrétienne, et il vous permet de comprendre aussi les Écritures. Un jour, un homme s'est retrouvé dans une conférence, et deux hommes devaient lire le psaume 23. On avait demandé à deux hommes de lire le psaume 23, le premier était un avocat, et le deuxième était un pasteur. Et bizarrement parlant, l'avocat, après avoir lu, il n'était pas du tout chrétien, il a lu le psaume 23 avec tout son talent oratoire. On peut penser qu'un avocat sait parler, hein, et il sait mettre les ponctuations et les intonations. Et puis après, le pasteur a commencé lui aussi à lire le psaume 23 de son côté. Et alors qu'il était en train de le lire, les gens étaient en larmes. Et l'avocat s'est levé et il a dit « Je connais le psaume 23, mais cet homme connaît le berger du psaume 23. » On peut connaître le psaume 23 sans connaître le berger dont il est question à l'intérieur. Beaucoup de gens savent des choses, mais ce n'est pas de savoir des choses qui est important. C'est de connaître Dieu dans l'intimité de ce qu'il est, réellement. C'est alors que la parole s'ouvre à notre schéma de compréhension. C'est alors que la parole devient claire pour nous. Quand on est dans la présence de Dieu et de son esprit, quand on est dans son intimité, alors on perçoit des choses que de l'extérieur on ne voyait pas. Il y a une image qui est très importante dans l'Ancien Testament, c'est le tabernacle et même le temple. On pourrait s'imaginer le tabernacle de Dieu, la tente de Dieu ou la maison de Dieu dans le désert des hommes comme quelque chose de luxuriant. Notre Dieu est grand et glorieux et ô combien les choses qui l'entourent devraient être glorieuses et visibles pour tous. Déjà, le tabernacle était entouré d'un grand drap blanc qui faisait que de l'extérieur, on ne pouvait pas voir ce qui était à l'intérieur. Déjà, ça semblait caché. Ce grand drap blanc parlait de sainteté. On ne peut pas rentrer comme ça dans la maison de Dieu et confronter sa sainteté. Et puis le tabernacle, c'était une tente qui était recouverte de peaux de tessons, des peaux de dauphin. C'est bizarre, hein. Toute grise, même très noire. Ce qui fait qu'en fait, elle était étanche, la pluie ne rentrait pas à l'intérieur, mais l'apparence n'était vraiment pas engageante, c'était sombre de l'extérieur. Pourquoi Dieu, lorsqu'il a demandé que le tabernacle soit construit, a-t-il demandé ça? Pourquoi a-t-il voulu ça? Parce que tout était défini par Dieu dans la construction du tabernacle, c'était une révélation que Moïse avait eue. Pourquoi voulait-il les choses comme ça, alors qu'à l'intérieur, tout était formidable? C'était de l'or, de l'argent, c'était des toiles brodées, des choses infiniment glorieuses. Eh bien justement, Dieu cache sa grande beauté à l'intérieur d'apparence, que quand on les regarde de l'extérieur, on n'en comprend pas vraiment le sens. Il faut entrer à l'intérieur, il faut entrer dans l'intimité de Dieu, il faut que Dieu vous invite dans son intimité pour commencer à confronter la magnificence de Dieu, sa grande beauté, sa grande bonté et tous les attributs qui le caractérisent. Le temple, c'était pareil, le temple de Salomon, à part deux colonnes posées à l'entrée du temple, Boaz et Jachin, eh bien, à part ces deux colonnes de l'extérieur, c'était une espèce de cube, c'était pas très esthétique. Il y a aujourd'hui des temples bien plus jolis à l'extérieur, vous avez des pagodes chinoises, vous avez des temples bouddhistes, si vous avez à l'île de la Réunion, vous verrez, il y a toutes sortes de constructions peintes dans toutes les couleurs, etc. D'ailleurs, même c'est presque plus beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le temple, il n'était pas terrible à l'extérieur. Et quand vous entriez à l'intérieur, il y avait non seulement l'architecture qui était belle, mais il y avait surtout quelque chose d'étonnant, la présence de Dieu, qui s'y manifestait d'une manière très particulière. Ce psaume nous parle évidemment de Dieu, d'un Dieu qu'on ne peut pas juste regarder de l'extérieur, d'un Dieu qu'on n'approche pas juste par une pratique scrupuleuse, et puis parce qu'on a rempli toutes nos cases, on a franchi toutes nos étapes, alors ça y est, on a le droit au niveau supérieur comme dans les jeux vidéo, quand vous avez réussi à faire toutes vos énigmes, vous passez au niveau 2, puis au niveau 3, et puis à chaque fois vous avez des félicitations, c'est bien fait les jeux vidéo, ça donne envie de continuer. La vie spirituelle c'est pas ça, la vie spirituelle c'est pas d'essayer de passer les étapes en vue 2. La vie spirituelle, c'est rencontrer Dieu et vivre dans son intimité dès le début et de conserver ça jusqu'à la fin et même dans l'éternité, vous avez bien compris. Puissions-nous, au travers de ce psaume, eh bien comprendre que Dieu nous invite à être plus proche de lui, plus près de lui, à confronter son intimité. Et la première des choses qu'on avait vues la dernière fois, c'était dans l'intimité du Dieu infiniment juste et saint. C'était pas la dernière fois, c'était l'avant-dernière. Et on avait parlé de cette partie du psaume du verset 19 au verset 20 sur la finale du psaume où on pourrait se dire mais on a l'impression que toute la dernière partie du psaume ne correspond pas aux premières parties, que presque on dit est-ce que c'est le même auteur? Pourquoi David en arrive après avoir décrit la grandeur de Dieu, dire je hais les méchants, je les déteste, etc., etc. C'est difficilement compréhensible quand on a une lecture à plat comme ça et quand on n'essaye pas d'aller un peu plus loin ou de demander l'aide du Saint-Esprit pour comprendre. David dira, ô Dieu, ne feras-tu pas mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi, il parle de toi pour faire le mal, tes ennemis jurent faussement. Eh bien, dans ces deux versets, David invoque non seulement la justice de Dieu, mais les conséquences que cette justice a sur les méchants et sur lui-même. David ira nous entraîner à pénétrer dans l'intimité de Dieu, qui consiste, cette intimité, à quoi ? Elle consiste à pouvoir confronter la justice de Dieu, et il en résulte que nous sommes imprégnés des mêmes sentiments que Dieu. Si Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, il est partout, il sait tout et il peut tout, il est aussi un Dieu infiniment juste, et pénétrer dans l'intimité de ce Dieu infiniment juste va faire que nous allons être imprégnés des mêmes sentiments que Dieu. Il y a un petit proverbe dans le monde qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Un chrétien change au contact de Dieu parce qu'il vient confronter l'intimité de Dieu et parce qu'il laisse le Saint-Esprit en lui davantage et davantage prendre la place. Alors, de plus en plus, il est conduit à avoir les mêmes sentiments, les mêmes façons de penser que Dieu. Beaucoup de chrétiens aiment la présence de Dieu, s'avancent vers lui, attirés par son amour, mais peu réalisent la dimension de la justice de Dieu. Qu'est-ce que sa justice revêt ? Dans l'Ancien Testament, elle était très présente, la justice de Dieu, bien plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. On vit sous une alliance différente, l'alliance de grâce, qui est dans la continuité de l'Ancien Testament et de l'Ancienne Alliance. Ce n'est pas une rupture, mais une continuité entre l'Ancien et le Nouveau. Mais évidemment, la justice de Dieu, on a plus de mal à la confronter, mais ce n'est pas pour autant que Dieu n'est plus ce Dieu infiniment juste. Dieu ne change pas entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas un Dieu qui a fait une remise à jour entre l'Ancien et le Nouveau. Il s'est uploadé sur le cloud et il a dit « Voici ma nouvelle mise à jour, la nouvelle mouture. J'ai des options supplémentaires. Là, je vais être un peu plus amour et un peu plus grâce que pendant les 1000 ans qui viennent de s'écouler. » Non, ce n'est pas ça. Dieu est le même dans le cadre d'une révélation progressive. Il se définit de manière différente. En tout cas, il vient sans cesse vers l'homme pour faire des alliances avec lui. Et chaque alliance, eh bien, nous amène évidemment à rétablir l'intimité avec Dieu. Et l'alliance a toujours été basée sur un sacrifice. Et la nouvelle alliance, le sacrifice a été donné, celui du Christ. Et quel sacrifice ! Dieu s'est incarné, il est venu au milieu de nous, il s'est fait homme. Et à partir de là, eh bien, il s'est donné sur la croix. Il a accompli le sacrifice pour que nous puissions retrouver le chemin de la maison du Père, l'intimité de Dieu qui a été apaisée dans sa justice en raison des péchés qui étaient les nôtres. Amen. Que Dieu soit béni pour cette grâce. Et on aime évidemment rentrer dans la présence de Dieu, mais dans la présence d'un Dieu infiniment juste. Si on réalisait vraiment qui il est, peut-être qu'on aurait peur d'y rentrer. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, aller confronter la présence de Dieu, c'était très particulier. Les hommes avaient plutôt tendance à vouloir se tenir à l'écart parce que la sainteté et la justice de Dieu, si vous étiez considéré comme un homme ou une femme souillée, vous étiez frappé instantanément. La mort tombait sur vous. Donc, il y avait une vraie crainte de confronter la justice de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, cette notion de justice de Dieu devrait être un peu plus rétablie dans nos cœurs et dans nos vies. Pourquoi ? Parce que ça nous permettrait de ne pas lâcher trop de choses aller dans nos vies, dans notre quotidien. Ou alors, ce serait pour nous, évidemment, la condition de nous tenir éloignés de Dieu et de ne pas aller le confronter. Beaucoup de chrétiens aiment la présence de Dieu, s'avancent vers lui, attirés par son amour, mais réalisent très peu la dimension de sa justice. Et c'est pourtant dans l'intimité du Dieu d'amour et infiniment juste que nous sommes invités à entrer. La justice de Dieu est donc inséparable de sa miséricorde, parce que si Dieu n'était que justice, on serait tous mal barrés, en réalité. Mais Dieu n'est pas que justice, il est aussi un Dieu d'amour. Tout serait dit si Dieu n'était que sainteté, mais il est encore amour. Et il arrive à maintenir ce Dieu-là, un parfait équilibre entre sa justice et son amour. Sa justice va satisfaire à sa sainteté, Dieu est saint, et il va réclamer justice, et c'est normal. Mais son amour va rééquilibrer les choses. Il condamne le pécheur, mais il ne le frappe pas. Il frappe Christ sur la croix pour éviter de frapper le pécheur. La justice de Dieu est satisfaite pour que nous puissions être pardonnés dès l'instant où on reconnaît ce sacrifice dans notre propre vie. La justice de Dieu est inséparable de sa miséricorde. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 15 à 16, c'est le retour du texte du Lévitique, chapitre 11, verset 44. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, ça veut dire mis à part, il ne se mélange pas avec, il est sur un terrain particulier, il ne vit pas comme vous vivez, il est dans la sainteté, dans la mise à part. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Dans toute votre conduite, il n'est pas parlé dans certains domaines de votre conduite, dans toute votre conduite, mais comment un homme peut-il se sanctifier? Comment une femme peut-il se sanctifier? En réalité, vous êtes déjà saints en Jésus-Christ, aux yeux de Dieu. Mais cette sainteté qui a été mise sur vous dès l'instant où vous êtes un vrai chrétien, une vraie chrétienne, née de nouveau, que l'Esprit Saint est en vous, que la révélation de Dieu a été faite dans votre vie, alors à partir de là, la sainteté, elle est sur vos vies. Vous avez ce vêtement de sainteté sur vous. Mais cette sainteté, il faut la maintenir, il faut la conserver, voire même il faut la pratiquer. Et la preuve que vous êtes sauvé, la preuve que vous êtes un chrétien né de nouveau, c'est que vous vivez dans cette sainteté. Ça ne veut pas dire que vous êtes sans péché. Ça veut dire que quand vous péchez, vous ne tolérez pas le péché dans votre vie. En tout cas, vous ne le pratiquez pas. Et à partir de là, quand le péché vient dans votre vie, s'il arrive, eh bien, vous le traitez par la repentance afin que la communion soit toujours rétablie avec le Père. On marche dans la sainteté, on entretient cette sainteté. On avait vu aussi qu'il découle également de tout ceci, et parce qu'un jour le jugement aura lieu, que les chrétiens peuvent avec confiance pardonner à ceux et celles qui les ont offensés, parce que pardonner c'est laisser à Dieu le soin de juger, c'est exprimer au Seigneur sa colère et son ressentiment et les laisser à ses pieds, sachant qu'il fera justice. Dieu est infiniment juste et Dieu fera justice, que ce soit la justice qui est satisfaite en Jésus-Christ, parce que si Christ a pardonné les péchés, pourquoi vous ne les pardonnez pas? Dès l'instant où Christ est dans votre vie, vous devez le suivre, et la justice du Christ, eh bien, a pardonné, et donc vous devez le faire vous aussi entre chrétiens, nous n'avons pas le choix que de pardonner. Comment ça? Pourquoi je ne pardonnerai pas? Si je ne pardonne pas, ça veut dire que je ne suis pas moi-même pardonné. Donc, il n'est même pas question de se donner le choix. Pour moi, c'est logique. Un vrai chrétien pardonnera. C'est obligatoire. Et s'il ne pardonne pas, c'est qu'il a un problème dans sa vie. Il faudrait aller voir jusqu'où est ce problème. Peut-être qu'il se croit chrétien et ne l'est pas. Mais en tout cas, le pardon, c'est quelque chose qui jaillit du cœur, une manière spontanée du chrétien quand le Saint-Esprit est en lui. Donc, la justice des chrétiens a été satisfaite par ce que Christ a fait sur la croix, et la justice de ceux qui ne sont pas chrétiens et qui vivent avec un poing tendu vers Dieu, elle passera un jour, croyez-le, parce que Dieu viendra réclamer de tous les hommes, de toutes les femmes, eh bien, qu'ils rendent compte de ce qu'ils auront fait, et la justice de Dieu passera. Et croyez-moi, la peine de Dieu sera bien pire que toutes les autres peines que vous auriez pu espérer ou même vouloir. Alors ça ne veut pas dire, soyez heureux, votre vengeance va enfin être satisfaite et c'est Dieu qui s'en occupe. C'est que Dieu n'agit pas pour vous venger spécialement, mais parce que sa sainteté et sa justice ont été bafouées. C'est par rapport à lui qu'il le fait et pas tant par rapport à vous. Dieu réclame justice. Il a établi le ciel et la terre, il a créé les hommes et les femmes, il est venu vers eux, il s'est révélé à eux, il a dit ce qu'il voulait, il a donné sa parole. Maintenant, ceux qui vivent en dehors de tout ça et qui se moquent de Dieu et qui se fichent de Dieu et qui vivent la vie qu'ils veulent mener, ils ne le feront pas en vain. Il est dit, toi jeune homme, toi jeune fille, et ça s'adresse à des jeunes, mais à plus forte raison à des personnes beaucoup plus âgées, toi jeune homme, toi jeune fille, marche selon les désirs de ton cœur. C'est-à-dire, fais ce que tu veux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. Certains essayent d'échapper à la justice. Il y a un gars, on a cru qu'on l'avait attrapé, qu'il était à la sortie d'un avion, mais c'était pas lui. Donc il court toujours, s'il est encore vivant. Il avait tué toute sa famille, vous voyez de qui je veux parler. La justice des hommes, des fois, elle a du mal à passer. Mais quand Dieu va te convoquer en jugement, tu ne pourras pas t'en extraire. Tu ne pourras pas essayer d'être dans une cavale, parce que quand Dieu t'appellera à lui, tu ne pourras pas faire autrement que de le confronter. Sache que pour tout cela, un jour, Dieu t'appellera en jugement. On en arrive à l'influence sainte de l'intimité de Dieu. Confronter Dieu, entrer dans son intimité, c'est évidemment entrer dans sa justice, mais c'est aussi entrer dans sa sainte présence. Versets 21 et 22, « Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi, je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. » Nous devons réaliser qu'une sainte haine va toujours de pair avec un saint amour. C'est le revers de la médaille. On haït ce que l'on aime beaucoup quand cette chose nous fait du mal, bien évidemment. Une sainte haine va toujours de pair avec un saint amour. Il découle de tout cela que la raison pour laquelle nous ne connaissons pas suffisamment la sainte haine, c'est que notre amour n'est pas suffisamment fort pour Dieu. Parce que Dieu a une sainte haine de certaines choses, bien évidemment. Il y a des choses que Dieu hait profondément. Et on se dit, mais pourquoi Dieu aurait de la haine? C'est pas un sentiment qui pour nous est normal quand on pense chrétiennement parlant. Pourtant, Dieu le dit dans sa parole, je hais certaines choses. Et on a du mal à comprendre cela. Mais parce que Dieu va équilibrer cette haine par un amour à la même mesure. Et nous, parfois, on ne comprend pas la sainte haine parce qu'on n'est pas assez rempli de ce saint amour. Et parce qu'on n'est pas assez rempli de cet amour de Dieu, alors on va haïr des fois d'une manière démesurée. D'ailleurs, l'homme est souvent plus prompt à haïr qu'à aimer. C'est plus facile d'haïr que d'aimer. C'est plus facile de faire le mal que de faire le bien. C'est plus facile de descendre de la montagne que d'y monter. Aimer, ça réclame des sacrifices, ça réclame de l'abnégation, ça réclame du dépassement, de la transcendance. Haïr, il faut juste laisser les choses aller. Il faut ne pas s'aimer soi-même et ne pas aimer les autres pour haïr. Un proverbe chinois dit « Si tu es un homme ou une femme, apprête-toi à creuser deux tombes, la sienne et la tienne ». Ça veut dire ce que ça veut dire. La haine, c'est se faire du mal. C'est finalement se faire du mal comme on souhaite le faire aux autres. Et si amour fort va nécessairement produire une haine forte, un amour saint va nécessairement produire une haine sainte. L'amour et la haine ne sont pas incompatibles, mais sont en réalité complémentaires. Il n'est pas question d'une haine pour faire mal, il n'est pas question d'une haine qui est couplée à de la méchanceté, mais du fait que je n'aime pas ces choses parce que j'aime ces choses. Je n'aime pas la violence parce que j'aime la douceur de Dieu. Je n'aime pas parce que j'aime. À moins d'avoir une sainte haine du péché, nous resterons toujours esclaves du péché. Il faut haïr ce dont on veut être délivré. Si tu l'aimes, comment tu pourrais en être délivré? Il faut le haïr. Avoir une sainte haine de l'hypocrisie, si on ne l'a pas, on ne sera jamais sincère, jamais vrai. Avoir une sainte haine de l'ignorance, parce que si on aime l'ignorance, on n'essayera pas d'agglomérer de la connaissance et on sera toujours trompé, abusé. Avoir une sainte haine de notre propre vie, parce que si on ne l'a pas, on ne cédera jamais cette vie pour avoir celle de Dieu. À moins d'avoir une sainte haine du mal, nous ne le surmonterons jamais par le bien. Et la question est de savoir si nous aimons les choses que Dieu aime et détestons les choses qu'il déteste, ou si nous aimons les choses que Dieu déteste et détestons les choses qu'il aime. Parce que ça, c'est la question fondamentale. Est-ce que j'aime ce que Dieu aime? Alors si oui, je vais finalement détester les mêmes choses que Dieu déteste. Est-ce que vous comprenez ça? Et la prière de David devrait être la nôtre. Seigneur, permets-moi de détester ce que tu détestes et d'aimer ce que tu aimes. Aide-moi à cela. Parce que des fois, je me rends compte que j'aime des choses que Dieu n'aime pas. Puis, il y en a que j'aime pas trop, alors que Dieu, lui, il les aime beaucoup. Et j'ai besoin de m'harmoniser avec Dieu. J'ai besoin que son esprit m'amène à finalement détester ce qu'il déteste et aimer ce qu'il aime. Et la question, je vous la pose, aimez-vous ce que le Seigneur aime? Alors, au Proverbe 8, verset 13, il est dit que la crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Je hais l'orgueil et la hauteur et la voix d'iniquité et la bouche perverse, dit Dieu. Vous allez me dire, c'est quoi cette haine de l'orgueil, de la hauteur, de l'iniquité, de la bouche perverse? Est-ce que Dieu ne pourrait pas haïr des choses qu'on peut juger nous plus importantes? Quelqu'un me disait, ah ben il y a des choses bien plus haïssables que juste des regards hautains, l'orgueil et des choses, il y a des choses bien pires que ça. Voilà, je vous l'accorde. Alors si Dieu met le niveau juste à des paroles, un regard, une attitude, à plus forte raison, imaginez-vous ce qu'il doit penser de tout ce que vous vous jugez comme étant tellement grave. En réalité, Dieu dit, ce que vous jugez être banal, de l'orgueil, des petites choses comme ça, moi je les hais. Alors imaginez quels sont mes sentiments pour le reste. Dieu ne va pas faire une liste exhaustive de toutes les haines qu'il a. Il met le niveau là où nous ne le mettons pas. Est-ce que vous comprenez? Il met le niveau à une telle hauteur. Rien que l'orgueil, il va en avoir une haine. Pourquoi Dieu a la haine de l'orgueil? Parce que c'est le premier péché, c'est le péché que Satan a conçu en lui, et c'est à cause de ça qu'il a déchu avec les anges qui l'ont suivi et qui sont devenus des démons. À partir de là, comment Dieu ne pourrait pas avoir une sainte haine de l'orgueil et de sa manifestation quand on voit les dégâts que ça produit? Dieu nous amène à mettre le niveau là où lui le met, pas là où nous le pensons. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. L'intimité de Dieu nous mettra toujours au contact de sa sainteté, et sa sainteté au contact de sa haine du mal. On ne peut pas aller vers Dieu sans être au contact de ça. Quand une personne devient chrétienne, la première des choses qui se passent dans sa vie, c'est que souvent son réseau d'amitié commence à s'amenuiser. Il ou elle perd des amis. Mais... vous êtes une secte, vous laissez vos amis. Ah ben non, c'est pas nous qui les laissons, c'est eux qui nous laissent, bizarrement quoi. Nous, on aimerait les conserver, mais ils s'en vont. Moi, ça m'a fait ça quand je suis devenu chrétien. Ben oui, c'est sûr que je n'aimais plus que eux aimaient. Je me plaisais plus à faire les mêmes blagues que eux faisaient, à regarder les mêmes choses qu'ils regardaient, à écouter les mêmes choses qu'ils écoutaient. J'avais plus les mêmes activités, alors j'essayais de parler de mes nouvelles activités. Et là... ils ne sont pas restés très longtemps. Alors j'ai perdu pas mal d'amis, mais j'en ai retrouvé 1000 fois plus. Après, un ami, c'est quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu n'es pas. Alors j'étais plus qu'il voulait que je sois, alors à partir de là, si tu ne corresponds plus à ce que les amis veulent que tu sois, ils ne voient plus d'intérêt à être amis avec toi. Donc pour moi, ce n'est pas de la vraie amitié, c'est de l'intérêt, c'est tout ce que vous voulez. Alors... quand on entre dans la présence de Dieu, quand on est dans l'intimité de Dieu, évidemment, il y a des choses qui vont changer. Sa sainteté va nous imprégner, sa haine du mal va rentrer dans notre vie, son amour saint va aussi grandir en nous. Alors c'est sûr qu'au contact des autres, le chrétien peut paraître bizarre, étrange, c'est vrai. Nous confrontons alors la justice et nous parvenons à comprendre l'étendue de l'amour de Dieu. Mais la véritable spiritualité nous permettra de maintenir constamment en équilibre ou en tension la sainteté, la haine du mal, la justice et l'amour. Il faut que ces choses soient maintenues en tension, en équilibre. Il faut la sainteté. La sainteté va produire la justice. La justice est basée sur la haine du mal. Et ce qui entoure tout cela, c'est l'amour. Et Dieu, parce qu'il est amour, ne va pas être injuste. Dieu, parce qu'il est amour, ne va pas commencer à aimer le mal. Est-ce que vous comprenez? On peut haïr le mal, pas haïr forcément la personne qui fait le mal, quoique celui qui fait le mal n'est pas défait du mal qu'il fait. Sinon, à ce moment-là, c'est ce que je disais la dernière fois, on va te punir, on va punir ton crime, mais toi, on ne te punit pas. Pour le viol que vous avez fait, monsieur, à cette jeune fille, on vous punit on punit ce viol de 14 ans, mais vous pouvez sortir. Allez, continue, hein, mon gars. Il n'y a pas de raison que tu t'arrêtes. On a puni ton crime. La société n'est pas d'accord avec ce que tu as fait et on choisit de condamner ton acte. Mais vous allez en faire quoi de l'acte? Vous allez l'enfermer quelque part? On ne peut pas détacher l'acte de la personne. Et Dieu ne nous détache pas non plus de nos actes, juste en Jésus-Christ, nous en avons été détachés. Mais autrement, ce n'est pas pour continuer à vivre dans le péché. Ne faites pas de la grâce un moyen de vivre selon la chair, dira l'apôtre Paul. Donc oui, juste pour pouvoir rétablir le contact entre nous et Dieu, il fallait qu'un injuste soit frappé pour les injustes. Mais une fois que le contact est rétabli, à nous de nous maintenir, grâce à Dieu et à son esprit, dans le terrain de la vérité, de la sainteté, de la justice et évidemment de l'amour. Donc une personne chrétienne doit s'efforcer de veiller sur la présence permanente de toutes ces choses dans sa vie spirituelle par la pratique quotidienne de l'intimité de Dieu. Et on en était resté. On en arrive à dans l'intimité de Dieu qui sonde et qui guide, qui conduit. Versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Vous avez déjà fait cette prière ?
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Attention, quand Dieu sonde, il sonde. Vous avez déjà eu des sondes médicales ? C'est pas très plaisant, hein ? C'est même pas plaisant du tout, les sondes. Quand on vous dit, monsieur, madame, on va vous sonder, ils vont pas venir avec un papier pour vous poser des questions. Hein. Non, c'est pas un sondage dans le sens que vous pouvez penser. Et de dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Évidemment, on devrait se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu va trouver ? Y aurait-il des choses dans mon cœur qui sont là et qui ne lui plairaient pas ? Et s'il les met à la lumière, ces choses qui sont dans mon cœur, peut-être voudra-t-il que ça en sorte. Mais si moi je veux les garder à l'intérieur, si tu as juste ce type de pensée dans ta tête, ne fais jamais la prière « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées ». Ne l'invite pas à sonder ton cœur s'il y a des choses que tu veux garder. Si tu invites Dieu à sonder ton cœur, c'est que tu vas accepter l'analyse qui va en ressortir et son activité derrière pour t'aider à rétablir ton cœur devant lui tel qu'il doit être. Un chrétien n'est pas appelé à faire une introspection de son cœur et d'essayer par toutes sortes de moyens d'aller s'analyser à l'intérieur. Un chrétien est appelé à prier pour que Dieu fasse cela dans sa vie. Et si vous saviez ce que le Saint-Esprit fait ressortir des cœurs quand cette prière est faite. Généralement, même les chrétiens qui se jugent bien se retrouvent pas trop bien. Parce qu'ils viennent de confronter la justice, la pureté, la sainteté de Dieu. Et Dieu est en train de faire ressortir tout ce qui était là dans les profondeurs, enfoui peut-être parfois depuis des années. Toutes sortes de blessures, toutes sortes de rancunes, toutes sortes de choses mal comprises, mais qui sont là et qui surgissent à certains moments donnés de notre vie. On ne sait pas trop pourquoi, ça nous conditionne bien évidemment. Mais quand Dieu va sonder, il va mettre la lumière sur ces choses, il va en donner certaines explications, ou parfois non, il va juste dire « cette chose ne devrait pas être dans ton cœur, il faut qu'elle sorte ». Est-ce que Dieu pourrait l'enlever sans qu'on dise oui ? Il pourrait très bien le faire. Vous savez, moi mon ordinateur, il ne dit pas toujours oui. Quand il commence à dysfonctionner, moi je fais appel aux informaticiens de l'église, vous savez ce qu'ils me disent ? Formate. Il n'y a rien de tel qu'un bon formatage. Tu remets tout à zéro, tu réinstalles tous les programmes de base et tout ce qui n'est pas bon va être viré. Et c'est bizarre comme un ordinateur remarche bien quand il a été formaté. Alors c'est une longue opération, ça prend du temps, mais ça marche mieux après. Ça marche beaucoup mieux. Il n'y a plus les virus, il n'y a plus les bugs, il n'y a plus tout un tas de choses à l'intérieur de l'ordinateur qui le fait dysfonctionner. Est-ce que Dieu pourrait nous reformater, nous remettre les programmes en état, comme si on venait de naître, tout neuf ? Ça s'appelle la nouvelle naissance. Ça a commencé, seulement il y a encore quelques programmes qui dysfonctionnent dans nos vies. Mais viendra un temps où l'entièreté de notre vie sera remise en conformité avec la volonté de Dieu et avec son projet de départ en Éden. En attendant, nous devons dire, Dieu, y a-t-il des choses dans mon cœur, des choses qui me ralentissent ? Des fois, les ordinateurs ont dit, ah, je ne sais pas ce qu'il a mon ordi, il rame. Ça n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, les informaticiens connaissent bien ces problèmes. Ça rame, frère, mon ordi, il rame. Est-ce que toi, dans ta vie spirituelle, tu rames ? Est-ce qu'il n'y a pas des petits programmes, des petites choses par-ci, par-là, des plans de compréhension des choses, des espèces de blocages qui t'empêchent d'avancer à la vitesse que Dieu veut ? De percuter quand Dieu te parle ? Comme des choses qui sont devant tes yeux qui font que tu ne vois pas et tu ne comprends pas. Sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. C'est alors que David en arrive à la conclusion de son psaume. Il demande maintenant à Dieu de le sonder et de l'éprouver. David n'ignorait pas grand-chose du cœur de l'homme. Quand on lit ces psaumes, on se rend compte qu'il a vraiment étalé tout ce qui peut se trouver dans le cœur d'un homme et d'une femme. Il n'en ignore pas les sentiments. Il n'en ignore pas des fois les choses tellement courbées qui sont dans le cœur. La complexité. David n'ignorait rien du cœur de l'homme. Et tandis qu'il est dans la présence intime de son Dieu qui sait tout, qui connaît tout et qui peut tout, il est important et essentiel pour le roi d'Israël d'implorer Dieu de le sonder et de l'examiner. Quand vous allez chez votre médecin, vous vous asseyez à son bureau, enfin, du côté patient, hein. Et puis, il vous dit pourquoi vous êtes là. Alors, vous expliquez vos problèmes. Et qu'est-ce que vous attendez qu'il fasse après avoir expliqué vos problèmes? S'il vous dit c'est bon, et il vous fait l'ordonnance, et il vous dit ça fait tant. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous vous attendez à ce qu'il vous ausculte? Oui ou non? Qu'il vous fasse asseoir sur la table là. Allongez-vous, retirez votre t-shirt, et puis il commence à mettre son truc qui te serre le bras, là. Il commence à prendre son stéthoscope, et il commence à quoi? À te sonder. Il sonde ton cœur. Il sonde les choses importantes de ta vie. Il va te faire ouvrir la bouche, il va te mettre une cuillère en bois. Tu vas faire des gros hauts de cœur. Il va te prendre le marteau, il va te taper sur le genou. Il va commencer à regarder tes pupilles. Il va te regarder sous toutes les coutures, et s'il veut aller plus loin, eh ben il va te dire « je veux aller plus loin pour vérifier certaines choses ». Et ce n'est pas toujours agréable quand il va plus loin d'ailleurs. Quand David dit « Dieu, tu peux tout, tu sais tout, tu connais tout, sonde-moi, je ne veux pas juste te dire quels sont mes problèmes, ce que je comprends de mes problèmes ». Ce que j'aimerais que tu fasses dans ma vie. Docteur, vous inquiétez pas, je viens vous voir, c'est juste pour que vous me fassiez l'ordonnance parce que je sais ce que j'ai et je sais ce que je veux. Il y en a, ils vont chez les médecins comme ça maintenant. Hein. J'ai vu sur Internet, c'est bon. Et là, le docteur, il fait... Non, mais je sais qu'est-ce que j'ai comme maladie, j'ai lu des articles, j'ai vu sur des forums, ça me fait pareil que la dame. Alors la dame sur internet, elle dit qu'il faut prendre ça, alors vous allez me donner ça. Là, le médecin, il va te dire, écoutez, voir, c'est moi le docteur, c'est pas vous, déjà d'une part. Arrêtez d'aller sur internet, et puis laissez-moi vous ausculter. Et ayez confiance en mon diagnostic. Dieu, je sais ce que je veux. Je sais c'est quoi mon problème. Alors voilà, je te prie pour que tu puisses m'aider dans mon problème, parce que je sais ce que j'ai. Mais non. Laisse Dieu. Regardez les choses. Laisse Dieu te sonder. Parce que la chose que tu es en train d'essayer de faire changer, elle est provoquée par autre chose. Ah ! Toi, tu vas essayer de soigner ce problème, de faire partir ce problème, mais il ne partira jamais parce qu'il est tellement lié à un autre dans ta vie que le temps que tu ne fais pas partir celui-ci, celui-là partira jamais. Ah ! Alors laisse Dieu te sonder. Et David savait que dans la présence intime de Dieu, c'est rare qu'un médecin vous ausculte sur le vieux port à l'extérieur, ou sur la place du marché, ou je ne sais pas où. Il est dans un cabinet fermé. Qu'est-ce que vous penseriez de votre médecin qui vous ausculte et il a des grandes baies vitrées ouvertes et puis les gens y passent devant comme ça? Vous diriez, mais vous n'avez pas des stores là? Vous n'avez pas des choses? Ah mais non, mais ça vous dérange? Ah bah oui, ça me dérange un peu, oui. Déjà bien que devant vous, je sois obligé de me trouver dans des positions que j'aimerais éviter, mais à ce moment-là, excusez-moi, mais dans l'intimité de Dieu, c'est pas comme quand je suis dans l'église. Entre dans le secret de ta chambre. Et ton Dieu qui voit dans le secret te répondra. Dieu sait que nous avons un besoin d'intimité avec lui. D'être à nu et à découvert devant lui, loin du regard des autres, loin du jugement des autres, où là on accepte de se dépouiller entièrement et on invite Dieu de nous sonder. Ausculte-moi, Seigneur. Il y a un moment donné où dans ma vie j'étais pas bien au niveau de la santé, pire qu'aujourd'hui, et puis j'étais dans un état de fatigue. Et quand pour moi prier était devenu difficile, un effort intellectuel, c'était dur. Alors ce que je faisais, c'est que je m'asseyais sur mon fauteuil dans mon bureau, je fermais mes yeux sans m'endormir et je disais: Seigneur, j'ai même pas la force de te prier, mais toi, fais ce que tu as à faire en moi. Je te laisse faire. Je ne sais pas ce que tu dois faire, ce que tu vas faire, mais fais-le. Peut-être à mon insu, mais fais-le. Et petit à petit, Dieu m'a redonné des forces, ces forces que j'avais perdues. Juste être dans sa présence, même pas parler, et être là, livré à lui, comme on se livre à un médecin, en disant: Seigneur, sonde mon cœur, sonde ma vie, regarde ce qui ne va pas en moi, regarde ce qui me fait tant de mal, je veux ton diagnostic sur ce qui ne va pas, sur cette souffrance qui est toujours là, sur ce mal qui me taraude, sur ces incapacités à dépasser un événement dans ma vie. Seigneur, aide-moi. Là où il y a des vides, remplis. Là où il y a des choses qui sont pleines et qui ne te plaisent pas, vide-les. Au psaume 130, ainsi le psaume 139 se termine par une prière. D'autant plus importante que David est animé d'un désir de justice. Et que ce sentiment pourrait le faire basculer dans l'amertume. Parce qu'un désir de justice peut nous amener dans l'amertume, dans la rancune, dans la vengeance. Et David a ce désir de justice, il a confronté le Dieu de justice. Et parce qu'il a vu la justice de Dieu, alors quand il voit les méchants, il se dit: mais c'est pas possible. Seigneur, je les hais d'une parfaite haine comme toi. Comment, Seigneur, tu peux soutenir la vue de ce qu'ils font? Certains disent: s'il y avait un Dieu, il ne se passerait pas tout ce qui se passe. Ah, d'accord. Mais tu veux que Dieu intervienne? Je ne suis pas sûr que ça va te plaire. Quand Dieu va établir sa justice, je ne suis pas sûr que ça va te plaire, parce que peut-être tu seras un des premiers concernés. Parfois, on dit des choses, mais on ne réalise pas trop la portée que ça peut avoir. Mais sachez qu'un jour, Dieu reviendra et il fera justice. Le désir de justice dans le cœur de David pourrait se transformer en un sentiment d'amertume s'il ne venait pas à Dieu, mais d'une simple disposition légaliste. C'est comme ça, la Bible elle le dit, et c'est comme ça, et je suis dans la loi, et la loi dit, et il ne faut pas, et je condamne, et j'accuse. David demanda à Dieu de l'éprouver, comme on le fait pour les métaux. On retrouve d'ailleurs cette image dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 6 à 9. C'est une image très spirituelle dans laquelle l'apôtre écrira: c'est là ce qui fait votre joie. Qu'est-ce qui fait votre joie à vous? Dites-moi, c'est quoi les sujets de joie chez vous? Une naissance, un petit enfant, toutes les femmes. C'est un sujet de joie. Là, tu veux que je te fasse voir comment il sera quand il aura 18 ans, ton sujet de joie? Tu veux que je te fasse voir les 18 prochaines années, comment ça va se passer? Petit, petit, grand. Ah, vous le connaissez aussi celui-là. C'est là ce qui fait votre joie. Qu'est-ce qui fait votre joie? Quoique maintenant, puisqu'il le faut, donc c'est utile, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Puisque Dieu connaît toutes choses, il connaît aussi les pensées de David. Est-ce qu'il connaît vos pensées? Oui. C'est pourquoi il saura aussi si le psalmiste est sur une mauvaise voie. Littéralement, cette mauvaise voie, c'est une voie de douleur, quand on le traduit d'une manière littérale. Regarde si je suis sur une voie de douleur. Une mauvaise voie, c'est une voie de douleur. C'est-à-dire un chemin de souffrance provoqué par une punition. Je suis sur un chemin qui est le résultat de ce que je viens de faire. C'est un chemin de punition, un chemin de douleur. Je suis en train de souffrir à cause de moi. Car l'intimité de Dieu n'a pas comme seul objectif de constater et de réprouver ce qui est mal en dehors de soi, en dehors de nous. Seigneur, fais-moi voir tout ce qui ne va pas chez ma femme. Fais-moi voir tout ce qui ne va pas chez mon mari. Fais-moi voir tout ce qui ne va pas chez mon pasteur, dans mon église. Ah, maintenant ça, je le vois tout seul. Non, David n'est pas en train de dire, fais-moi voir tout ce qui ne va pas dans mon royaume. Quels sont les hommes dont je dois me méfier? Et il y en avait dans le royaume d'Israël avec David. Son propre fils, Absalom. Fais-moi voir ce qui ne va pas, je veux voir pour pouvoir bien régner. Non, David ne demande pas à avoir une vision claire de ce qui l'entoure. Il dit, Seigneur, sonde-moi, moi le roi d'Israël, sonde-moi, je veux savoir ce qui ne va pas en moi. Je me fiche de ce qui ne va pas dans les autres, qui se mettent devant toi eux aussi. Mais moi, je veux savoir ce qui ne va pas en moi. Il y en a qui sont forts pour prier pour les autres, mais moins forts à prier pour eux. Fort à dire, Seigneur, sonde-les, fais-leur voir ce qui ne va pas dans leur vie. Parce que moi, je le vois. D'ailleurs, on voit souvent plus les défauts les autres que eux les voient. Vous savez, c'est comme les phares d'une voiture. Généralement, quand tu croises une voiture, elle te fait des appels de phare, tu te dis, ouais, il doit y avoir les flics. Non, c'est juste que tu es en plein phare et que tu es en train de l'éblouir. Et tu te dis, mais n'importe quoi, pourquoi il me fait des appels de phare? Ben, c'est juste parce que tu es en plein phare et que tu l'éblouis. Et tu t'en rends même pas compte. Toi, tu dis, ah, c'est bien, je vois bien. Ah, mais l'autre, il voit pas bien, lui, en face de toi, tu vois. Tu es en train de le... Et nos défauts dans notre vie produisent la même chose. Les autres les voient bien plus que nous, on les voit. J'expliquais il n'y a pas longtemps, il y avait un petit jeu qui était fait comme ça dans une école biblique. Et les élèves pasteurs s'étaient dit, ah, ce soir, on va faire un truc un peu spécial. Vous allez voir, ça décape. Ça décape, mais qu'est-ce qu'il dit? Et le soir, tous les élèves pasteurs se sont retrouvés dans une salle de classe. Il n'y avait pas de prof, il n'y avait rien. Ils étaient entre eux, dans la même promo. Ils étudiaient les mêmes choses. Et il y en a un, il dit, bah voilà, on va faire une activité spéciale. Ah bon, c'est quoi l'activité? Tous, on va passer sur le devant. Les uns après les autres. Ils étaient une vingtaine. On va passer sur le devant. Et pendant que chacun sera sur le devant, tous les autres, d'une manière, mais avec vérité, sans concession, disent ce qu'ils pensent de lui. Vous avez un peu de temps ce matin? C'est bizarre qu'on n'a même pas envie de savoir ce que les autres pensent de nous, vraiment. Comment on pourrait vouloir ce que Dieu pense, qui sera encore bien plus objectif que les autres? On préfère vivre dans le déni. On ne veut pas savoir. Et ce jour-là, un des jeunes pasteurs qui était là, et c'est lui qui écrit ça dans ce livre que j'ai lu, dit, ils ont commencé à parler sur moi. Et des choses pour lesquelles je faisais des efforts pour les cacher, je les savais qu'elles étaient en moi. C'est les premières choses qu'ils ont pointées dans ma vie. Et en vérité, j'avais beau faire des efforts, ça se voyait quand même. C'est décapant comme activité. Hein, faites ça avec des gens que vous aimez beaucoup et qui vous aiment beaucoup, hein, si vous le faites. C'est décapant. Mais d'un seul coup, on se rend compte que, mais à quoi bon vouloir dissimuler, à quoi bon faire les hypocrites, à quoi bon cacher les choses et mettre du vernis autour? Ça se voit quand même. Ça se voit. Ce que toi, tu crois cacher, c'est ce que les autres voient. C'est un peu comme l'autruche, elle a la tête dans le sable, elle pense qu'on la voit plus, elle. Si je suis sur une voie de douleur, fais-moi le voir. L'intimité de Dieu n'a donc pas comme seul objectif de constater ou de réprouver ce qui est mal en dehors de soi. David était en guerre au dehors de lui comme au-dedans de lui. Parfois, les combats sont même plus vifs à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et si on ne traite pas les combats à l'intérieur, tôt ou tard, ils vont rejaillir à l'extérieur, dans nos relations aux autres. Les deux guerres à mener, les deux guerres qu'il faut que tu mènes, ce sont des guerres spirituelles sans violence, mais dans la prière. Sont celles qui se déroulent au dehors contre les faux justes ou les méchants impénitents pour lesquels il faut prier, afin que, si Dieu les appelle, ils viennent à lui. Mais s'ils se maintiennent dans leur méchanceté, dans leur injustice, ils puissent être freinés dans leurs actes. Le Seigneur dira que les chrétiens sont le sel de la terre qui freine la corruption. Une lumière au milieu des ténèbres. C'est tellement important. Je disais très récemment à quelqu'un, peut-être que ton entreprise, elle n'est pas terrible, mais toi, en tant que chrétien dans l'entreprise, tu dois amener ce qui n'y est pas. Tu as ton rôle à jouer. Par ta présence chrétienne, là où tu es. Romains chapitre 7, verset 23-25. « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, dit Paul, qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » En tant que croyant, nous ne sommes pas appelés à partir en croisade pour christianiser les âmes sous la contrainte des armes. Ces chrétiens qui sont partis en croisade, à mon avis, n'ont rien compris à la Bible. À aucun moment Dieu a dit « prenez les armes et contraignez-les de devenir des chrétiens ». Mais pour autant, nous devons mener une guerre sainte. Alors je sais que le terme aujourd'hui, guerre sainte, c'est quoi ce truc ? Une guerre sainte et spirituelle contre les dominations et les puissances ténébreuses, les esprits méchants dans les lieux célestes dont parle Paul, contre les instruments humains au service des pouvoirs sombres et obscurs, pas en leur faisant une guerre physique, mais spirituelle, en priant. En pliant nos genoux dans la prière, en suppliant Dieu d'œuvrer au rétablissement de toutes choses. J'en témoignais il y a quelque temps en arrière, un ami à moi qui est chrétien, engagé depuis des années, occupait une position de leadership très importante, puisqu'il était général de l'armée de l'air dans un pays. Et dans ce pays, comme c'est une royauté, le général de l'armée de l'air est très proche du pouvoir. Quand il y a un roi, il n'y a pas un ministre des armées, etc., etc. Donc c'est directement les militaires qu'on contacte au roi. Donc c'est quelqu'un qui est reconnu pour avoir un leadership exceptionnel, un homme que j'estime beaucoup. Il était encore chez moi il y a à peu près 3 semaines, on mangeait ensemble. Et il y a quelque temps en arrière, il y a à peu près 2 ans en arrière, il me dit « Ah, je reviens en France, on peut se voir ». Et on s'est vu, on a mangé ensemble. Et en fait, il était appelé par une entreprise autour de l'étang de Berre de la pétrochimie, je ne vous dirai pas laquelle. Et pourquoi on appelle un ancien général de l'armée de l'air, réputé pour avoir un leadership et surtout comme étant un chrétien engagé ? Pourquoi une entreprise séculière qui travaille dans la pétrochimie va appeler un tel homme pour s'adresser à tous les cadres de l'entreprise ? La demande était la suivante. Pendant des années, notre société a appris à nos cadres à être des filous. Au bénéfice de la société dans laquelle nous sommes. À trouver des moyens de faire grandir la société, même si ces moyens n'étaient pas terribles. Eh bien, écoutez voir, aujourd'hui, ça se renverse contre nous, parce que l'ensemble de nos cadres, c'est plus qu'une bande de filous qui se renverse aussi contre l'entreprise, parce qu'on leur a donné toutes les clés pour le faire. Et aujourd'hui, on aimerait que vous, qui êtes chrétiens et qui avez une expérience des hommes, vous puissiez apporter vos valeurs chrétiennes pour ramener ces hommes dans la droiture parce qu'ils sont en train d'épuiser notre entreprise. Waouh ! C'est beau, non ? En Égypte, qui a-t-on pris pour s'occuper des gouvernances du peuple et des biens du peuple ? Joseph, un homme de Dieu. Les chrétiens ont leur part à jouer dès l'instant où ils sont ces hommes et ces femmes de l'intimité de Dieu. Tôt ou tard, on leur fera appel pour savoir quelle est la voie juste, quelle est la bonne direction à prendre. En attendant, oui, il y a un combat, une guerre à mener dans la prière. Pas forcément à les confronter tout le temps, mais juste à prier. Si vous saviez
ce qui se passe quand un chrétien se met à prier, lorsqu'il invoque son Dieu de tout son cœur.
Nous devons faire ça jusqu'à ce que le Seigneur vienne rétablir toutes choses. Et en attendant ce jour glorieux, nous devons faire mourir chaque jour notre propre nature terrestre et pécheresse. L'apôtre Paul dira dans Colossiens chapitre 3, versets 5 à 10, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » Et c'est quoi les membres? Ce n'est pas les membres de l'Église. C'est l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie, puisque c'est un amour de l'argent qui passe en priorité dans nos vies. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ainsi, dans la mesure où il suit l'Éternel, ce dernier le conduira et protégera sa vie. Tout croyant qui comprend la signification des attributs de Dieu, dont on a parlé tout au début de nos rencontres sur cette thématique et que vous pourrez écouter sur Internet si vous le souhaitez. Tout croyant qui comprend la signification des attributs de Dieu comme ils sont médités dans ce psaume, y trouvera à la fois une grande consolation, un grand encouragement à lui obéir. Il s'en retrouvera attiré par l'intimité de Dieu et conduit inlassablement dans l'œuvre de mortification du vieil homme. Oh, c'est quoi ça, l'œuvre de mortification du vieil homme? T'as basculé catho, pasteur, ou quoi? Quand on parle de la mortification, on s'imagine, vous savez, ces moines au Moyen-Âge qui se flagellaient, vous savez, qui se mettaient à sang, là. On voit ça dans d'autres religions aussi, hein. Ils se mettent à sang, là, et ah, je fais mourir la chair. Non, elle n'est pas en train de mourir, elle est en train de souffrir, là. Et ça te rend plus spirituel. Ah ben non, c'est pour ça que je continue, et ça saigne, et ça fait mal. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Mais non. C'est quoi cette œuvre de mortification du vieil homme? Pasteur, moi j'ai 25 ans, j'ai un vieil homme. Bah oui, t'as un vieil homme. C'est quoi ce vieil homme? C'est cet homme qui fonctionne comme Adam quand il a déchu. Voilà pourquoi c'est un vieil homme. Et l'œuvre de mortification du vieil homme, c'est être affligé au fond de son cœur à cause de ses péchés. Les haïr et les fuir de plus en plus. Et le but de la mortification est donc de retirer la force au péché de manière à ce qu'il perde son pouvoir sur nous. C'est appliquer la mort du Christ à notre vieil homme qui a été crucifié avec Christ selon Romains chapitre 6 verset 6. C'est l'esprit qui nous pousse dans cette direction afin de s'opposer aux convoitises de la chair selon Galates 5 17. Cette œuvre de l'esprit, écrira un certain John Owen que je recommande d'ailleurs, s'accomplit dans la durée et doit être poursuivie chaque jour de notre vie dans le but de parvenir à une perfection de plus en plus grande, une perfection divine bien différente du perfectionnisme humain. Parce que celui-là, je ne vous le vends pas. Par contre, cette perfection que Dieu attend de nous, cette maturité spirituelle dont il est question, Dieu nous demande, évidemment, de nous retrouver dedans de plus en plus. Romains chapitre 8, versets 13 et 14, « Si vous vivez selon la chair, qu'est-ce qui va se passer? Vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir, mortification, les actions du corps vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Oui, l'intimité de Dieu aura nécessairement des répercussions sur votre propre vie. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu et ressortir pareil. Notre sainteté s'en trouvera renforcée. Nos péchés seront pris en compte dans une profonde repentance et ne seront plus minimisés ou pire, déniés ou justifiés. Notre nature pécheresse sera bridée par la mortification opérée par l'Esprit Saint et toute notre conduite en sera qualifiée de sainte. C'est un long processus. C'est pas parce qu'il est long qu'il ne faut pas le commencer. Il est long parce qu'il va durer toute ta vie. Dans son livre sur la mortification du péché, John Owen écrira « Il faut que vous soyez continuellement occupé à tuer le péché. » Pour John Owen, il n'est pas dit « Caresse-le, mais mets-lui une chaîne. » Non. Tu le tues. Dans ta vie. Il faut que vous soyez continuellement occupé à tuer le péché. Sinon, c'est lui qui vous tuera. N'imaginez pas que vous allez progresser dans la sainteté si vous ne foulez pas aux pieds vos convoitises. Si vous ne tuez pas le péché au fur et à mesure que vous cheminez, vous n'irez pas bien loin spirituellement, dit-il. Il ajoute, aucun effort humain ne peut faire mourir le péché. Ah dommage, je croyais qu'il y avait une méthode. Non. Seule une énergie toute puissante peut accomplir ce travail, la puissance du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit dans votre vie pour que vous puissiez y parvenir. Soyons donc lucides et vigilants, dit Owen. N'imaginons pas avoir mortifié un péché parce que nous ne le pratiquons plus. Regardons plutôt s'il ne se manifeste pas sous une autre forme. Le péché est adaptable. Pour progresser dans une vie sainte, dit Owen, il faut sentir sa propre corruption. Plus tu sens ta propre corruption, plus tu pourras progresser dans une vie sainte, à condition que l'Esprit soit en toi. D'ailleurs, c'est lui qui te fera considérer les choses ainsi. Il t'amènera à avoir une haine de ce que tu fais et de ce que tu es dans cette vieille nature qui te pousse toujours à faire le mal au lieu de faire le bien. Et ça, c'est déjà marcher sur la bonne voie que de voir les choses ainsi. Alors tu diras, sonde-moi, éprouve-moi, enlève ce qui doit être retiré, mais que ma vie aille de sainteté en sainteté. Si nous haïssons le péché en tant que péché, dira Owen, nous devrions être attentifs à tout ce qui attriste l'Esprit de Dieu, et pas seulement à ce qui nous attriste nous. Parce que des fois, on s'occupe. Seigneur, tu vois, ça m'attriste, cette situation. Et... Oui, mais tu te poses la question, qu'est-ce qui attriste Dieu, lui ? Seigneur, fais-moi voir ce qui t'attriste. Dans ma vie déjà. Et quand on confronte et que Dieu dit, tu vois, dans ta vie, ce qui m'attriste, c'est toutes les fois où tu as parlé comme ça. Toutes les fois où tu as regardé une femme, au lieu de la regarder dans les yeux, tu l'as regardée 20 cm en dessous au point qu'elle en était gênée. Ce qui m'attriste dans ta vie, c'est que tu es plus propre à gagner de l'argent qu'à te mettre à genoux pour celui qui pourvoit tant. Ça, ça m'attriste. À un moment donné de ma vie, certains le savent, j'étais au milieu des gens du voyage, j'ai été pasteur au milieu d'eux pendant 15 ans. Et j'ai pu, avec ma famille, aller travailler dans les vignes aux vendanges. Alors j'allais aux vendanges, c'était la saison, le mois de septembre, octobre. Dès que c'était la saison des vendanges, je partais aux vendanges en Champagne. Et puis alors que les vendanges étaient en train de se faire, il fallait embaucher le matin de bonne heure. C'est dur les vendanges. Toute la cueillette à la main, c'est dur. Dans les coteaux de Champagne qui sont comme ça, c'est pas évident. Alors, il fallait y être de bonne heure. Alors, comme il fallait y être de bonne heure, on n'avait pas le temps de prier, quoi. Pas me lever encore une heure avant pour briller. Donc, on partait, on mettait nos vieux vêtements, et puis allez, au coup de sifflet, on coupait. Puis à un moment donné, comme j'avais mal dans le dos, je me suis dit, tiens, je vais me mettre à genoux directement, puis je vais avancer sur les genoux, comme je vais couper. Et puis quand je regardais par terre dans les allées où j'avais mes genoux, je regardais, il y avait plein de petits bouts de plastique bleu, puis gris. Je sais quoi tous ces bouts de plastique ? Alors j'ai commencé à regarder. Vous savez ce que c'était ? Des déchets ménagers, des poubelles. Parce que les tracteurs, quand ils passent dans les vignes, enlèvent de la terre avec leurs roues. Puis ça creuse. Alors plutôt que de remettre de la terre, et après, à mon avis, ça doit aussi amener de la chaleur au pied de vigne, ils mettent du déchet ménager, mais broyé. Et ils remplissent le sillon de déchet ménager. Et là, je me retrouve, écoutez bien, à genoux, dans les ordures, pour gagner de l'argent. Un kilo, un euro. Un kilo, un euro. Un kilo, un euro. Oh, elle est belle la grappe. 1 euro, 2 euros, ah, réjouis-toi mon âme, T'as les genoux dans les ordures pour 1 euro. Et alors que j'étais dans la vigne, l'Esprit de Dieu m'a frappé. Regarde ce que tu es capable de faire pour de l'argent. Et pour moi qui t'a tout donné, qui a même donné cette vigne, qui a fait grossir ce raisin, qui a arrosé cette vigne, qui l'a ensoleillée, tu n'es pas capable de te mettre à genoux. Tu es dans les ordures pour de l'argent. Et pour ton Dieu infiniment saint, tu n'arrives pas à te mettre à genoux. Si vous saviez comment j'ai été frappé. Je pleurais dans la vigne. Je ne savais plus s'il fallait que je me relève ou si je devais rester à genoux. Je dis, demain, je ne vais pas revenir, hein, je vendange plus, moi. Je me suis tellement senti mal. Sonde-moi, ô Dieu, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, une voie de souffrance et de douleur. Je me préoccupe pour des choses, Seigneur, qui ne sont pas normales. Je m'inquiète pour des choses qui ne sont pas normales. Ma préoccupation, ce n'est pas toi. Les premières heures du jour, ce n'est pas à toi que je pense. Et juste avant de m'endormir, mais ce n'est toujours pas à toi que je pense. Seigneur, aide-moi à sortir de ça. Je suis sur une mauvaise voix, une voix de douleur. Je souffre parce que j'ai peut-être fait des mauvais choix dans ma vie. Mais Seigneur, sonde-moi. Connais mon cœur. J'ai peut-être un Absalom dans ma maison. Peut-être que les gens de mon propre royaume veulent me renverser. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Je dois prendre pourtant des décisions qui vont impacter tous. Seigneur, sonde-moi. Et j'oserais dire que plus tu as de responsabilités dans ta vie, et plus tu devrais demander à Dieu de te sonder. Si tu es une maman que tu as des enfants, demande à Dieu de te sonder avant de transmettre à ton enfant tout ce qu'il ne faut pas. Quand on aime, on donne tout, hein, les mamans, vous le savez. Mais en donnant tout, tu vas peut-être aussi donner le mauvais. Sonde-moi. Je ne veux pas donner, transmettre de mauvaises choses. Et ça vaut pareil pour les papas. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi. Fais-moi voir. Retire. Owen poursuit. Le sang de Christ est l'unique remède pour les âmes malades du péché. Et il dira enfin, seul l'esprit peut conduire une âme à une véritable conviction de péché. Pour conclure, j'y serai arrivé. En finalité, nous devons tirer de ce psaume 139 un appel de Jésus-Christ adressé à nos vies, à plus de sainteté dont David ne fut qu'un écrivain tout autant concerné que nous le sommes tous ce matin, je l'espère en tout cas. La lumière que nous voyons dans ce merveilleux cantique de David est celle de Dieu, douce et apaisante pour le pécheur, mais qui ne peut supporter le péché. Elle est une révélation de la sainteté de Dieu par le même éclairage, la révélation de notre état, comme de ceux qui nous entourent. Parce que la lumière de Dieu ne l'éclaire pas seulement lui à notre connaissance, elle nous éclaire à nous dans ce que nous sommes aussi. Confronter plus de connaissances de Dieu, plus d'intimité de Dieu, c'est forcément se connaître mieux soi-même. C'est pourquoi en premier lieu, ce psaume nous invite à confesser nos péchés, car Dieu les connaît, puisqu'il nous connaît entièrement. Assurément, c'est une chose accablante pour une âme d'être profondément convaincue de péché. C'est accablant. Surtout quand on pensait qu'on était juste, spirituel. Cependant, notre âme trouve un complet soulagement et un motif de louange lorsque, par la repentance, nous retrouvons le chemin de l'intimité de Dieu qui nous était fermé en conséquence de nos péchés. Comment faire taire nos louanges, tandis que dans la présence de notre Dieu, nos âmes réclament une purification encore plus complète. C'est ainsi qu'au sentiment de la grâce, le plus riche se lie la plus exigeante jalousie de la sainteté. Là, dans l'intimité de Dieu, quand enfin le saint heureux peut désirer, dans son amour pour Dieu, pour sa puissance en sainteté, en justice, le présent jugement moral de lui-même et dans l'avenir, le jugement qui détruira tout mal. Parce que c'est le rétablissement de toute chose, ce sera la destruction de tout mal. Arrivé à ce stade, le croyant ne craint pas de solliciter d'être sondé. Et même cela qu'il redoutait lorsqu'il était, et cela même qu'il redoutait quand il était convaincu de péché. La prière d'une telle âme se résume en quelques mots et on termine là-dessus. Père, Conforme-moi à l'image de Jésus-Christ, ton Fils, et détruis toutes mes illusions quant à ce que cela signifie. Il doit grandir, mais je dois diminuer. Montre-moi quelles sont les choses qui te plaisent et quelles sont les choses qui te peinent. Donne-moi la sagesse et le discernement pour les distinguer. Pas la sagesse qui vient des hommes, mais celle qui vient de Dieu. Donne-moi une sainte haine envers tous ceux qui ne se donnent pas à Christ la prééminence. Je te le demande pour que ta volonté soit faite et que ton royaume vienne. Donne-moi, Seigneur, une sainte haine, pas pour taper sur les gens, mais envers tous ceux qui ne donnent pas à Christ la prééminence. Je sais que tu reviens et qu'avec toi la justice, la sainteté, la paix, la joie, le bonheur, le rétablissement de toutes choses, l'amour à son paroxysme. Et pour que ces choses soient, il faut que le mal et ceux qui luttent contre soient ôtés. Vous faites ça? Je sais que Olivier, il est vigneron. Tu fais quoi des gourmands au pied de vigne? Voilà. On les enlève, ils ne servent à rien. Alors le vigneron, lui, pour s'occuper de sa vigne, il enlève tout ce qui ne sert à rien et qui pompe la vie de la vigne. Je ne veux pas être un gourmand au pied de la vigne, de quelqu'un qui profiterait d'une situation, mais qui ne porte en réalité aucun fruit. Seigneur, sonde-moi. Je veux être greffé sur toi. Je ne veux pas être là juste pour prendre. Je veux être surtout là pour donner, tel que toi tu donnes, Seigneur, sans te lasser, sans te fatiguer. Seigneur, bénis cet auditoire, bénis cette église, mes frères, mes sœurs, nos amis. Pose tes mains sur chacun et chacune. Il y a tellement de douleurs autour de nous. Mais Seigneur, cela ne vient pas faire toutes les douleurs que nous avons en nous. Toutes ces craintes, ces peurs, ces souffrances qui nous accablent. Toutes ces incompréhensions avec ceux qui nous entourent. Nous sommes parfois tellement mal dans nos cœurs, dans nos âmes, qu'on essaye de trouver toutes sortes de substances pour nous permettre d'arriver à supporter le quotidien de la vie. Seigneur, tu nous dis, venez dans ma présence.